Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation.
Salut Éric.
Salut Ronan.
Elle occupe une place importante dans notre maison, notre appartement. Non, ce n'est pas la cuisine, c'est l'autre, la salle à manger, lieu des joyeusetés culinaires et de sociabilité. Au fil des siècles, elle s'est adaptée à notre mode de vie et ça valait bien toute une émission pour en parler. Éric, on connaît les origines de la salle à manger, ça a toujours existé ?
Non, la salle à manger est même relativement récente, Ronan. Le mot « salle à manger » apparaît pour la toute première fois dans des textes manuscrits datant du début du XVIIe siècle seulement. Mais jusqu'au XVIIIe, il n'y a pas de lieu spécifique destiné au repas. La table était une table volante, on la dressait là où on avait décidé de prendre le repas. D'ailleurs, cette expression « dresser la table » date du Moyen-Âge. On sort du placard une simple planche de bois que l'on redresse ou dresse pour la poser sur les tréteaux que l'on vient d'installer. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe, les pièces d'habitation étaient des espaces polyvalents, et cela dans toutes les couches sociales. Chez les plus pauvres, bon, bien sûr, là on mange dans l'unique pièce de la maison. Il faut savoir qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, un foyer parisien sur trois avait un logement très exigu qui ne comportait qu'une seule pièce. Par contre, chez les propriétaires de châteaux ou de grandes demeures bourgeoises, les pièces étaient nombreuses et on mangeait, je l'ai dit, dans des salles qui pouvaient varier d'un jour à l'autre en fonction du nombre de convives, de l'événement célébré ou encore de la saison. En hiver, par exemple, si on n'était que quelques-uns à manger, bien sûr, on préférait les petites pièces qui étaient plus faciles à chauffer, comme par exemple la chambre ou l'antichambre. Mais quand on recevait, on dressait des tables dans la grande salle d'apparat. Alors tu t'en doutes bien Ronan, c'est évidemment chez les nobles et les riches bourgeois que les premières salles à manger vont faire leur apparition au XVIIIe siècle.
Qu'est-ce qui explique cette naissance de la salle à manger ?
Déjà, ça va s'inscrire dans un mouvement général de spécialisation des pièces de la maison. Alors une première raison, c'est que les aristocrates se mettent à recevoir leurs invités pour dîner ou souper à un jour et à une heure fixe, alors qu'auparavant, ces invitations n'étaient pas prévues à l'avance de façon précise. Et donc, ce changement d'habitude crée le besoin de consacrer une pièce spécifique à ce seul usage, recevoir à manger de façon plus formelle. Jusqu'alors, les demeures des élites sociales étaient ouvertes à tous les courtisans et visiteurs qu'on pouvait recevoir à toute heure du jour dans des salles qui étaient, je l'ai dit, polyvalentes. Les repas du maître de maison, des membres de sa famille, éventuellement de ses invités, étaient donc pris sous les yeux des gens de passage. On mangeait en public et ça ne gênait pas, au contraire.
Il y avait d'autres raisons.
Oui, il y a aussi une évolution des mentalités et des sensibilités. D'abord, on va chercher davantage d'intimité. Et aussi davantage de confort. Pour les repas du quotidien, on va donc choisir toujours la même pièce qui est facile à chauffer, à éclairer et dans laquelle on pourra disposer de façon permanente des meubles spécifiques comme les desserts et les tables de buffet. Et puis, troisième raison, on a envie de cantonner les odeurs des plats dans une seule pièce séparée des autres pièces qu'utilise la famille.
Il y en a un, en tout cas, qui a tout de suite adopté la salle à manger, c'est Louis XV.
Oui, ce roi, qui était réputé fin gourmet, prend vite goût à ce nouveau concept. La salle à manger répond à son désir de prendre ses repas dans une atmosphère détendue, intime. Louis XV, il ne supporte pas le cérémonial pesant du repas en public, où il se trouve placé sous le regard de dizaines de courtisans. Et donc, dans les années 1730, il fait installer dans ses appartements privés deux salles à manger, une d'hiver et une d'été. Il y fait adjoindre une cuisine qu'il n'hésite pas à investir de temps à autre pour préparer lui-même une omelette ou un chocolat chaud ou encore un café, qui étaient deux breuvages très à la mode dans ce XVIIIe siècle. Ce désir d'intimité passe également par la réduction du nombre de serviteurs au strict minimum.
Les salles à manger sont longtemps restées réservées aux maisons nobles et bourgeoises.
Oui, parce que tu imagines bien qu'il faut de la place dans la demeure et aussi de l'argent pour meubler, décorer cette pièce qui ne sera utilisée que pour manger. Au XVIIIe, l'installation d'une salle à manger deviendra très vite une exigence des classes aisées. C'est un symbole de pouvoir, de richesse, de réussite. On y reçoit ses invités dans un décor qui est destiné à faire riche avant tout. Alors on y installe le plus souvent un poêle, des meubles à dessus de marbre, une fontaine pour se laver les mains. En revanche, la table à manger, elle, reste pendant quelque temps encore un meuble mobile qu'on installe et qu'on enlève pour le temps du repas. La table à manger fixe ne se répand qu'à partir de Louis XVI, donc à la fin du XVIIIe siècle. Elle est pourvue de rallonges pour pouvoir accueillir davantage de convives.
La salle à manger, c'est aussi les couverts, le service de table.
Bah oui, et les élites du 18e aiment par-dessus tout exhiber leurs plus belles pièces de vaisselle en porcelaine délicate. Oui, mais la porcelaine est cassable, il faut la renouveler souvent. Pas grave, ça permet d'être toujours à la mode. Dans le service des boissons, le verre s'impose. Il faut tout de même attendre la fin du 18e pour que chaque convive puisse enfin boire dans un verre individuel posé devant lui. Auparavant, si tu avais soif, Ronan, eh bien tu aurais dû adresser un signe de la main à un serviteur qui t'aurait apporté un verre déjà rempli, tu l'aurais bu d'un trait et tu le lui aurais rendu.
Et il y a toujours une grande attention portée aux bonnes manières de table.
Eh oui, il faut savoir maîtriser son corps, déglutir sans bruit, ne pas manger la bouche ouverte, se tenir bien droit, ne pas mettre ses coudes sur la table. Le souci de se tenir à table de manière distinguée entraîne aussi la fabrication de nouveaux couverts et ustensiles qui, encore une fois, permettent aux classes aisées de se distinguer socialement. Donc à partir du 18e et plus encore au 19e, les couverts vont se spécialiser. Fourchette à huîtres, fourchette à escargot, cuillère à melon, cuillère à glace et bien d'autres.
À quel moment la salle à manger va-t-elle être adoptée par les classes populaires ?
Ça, c'est pas avant la fin du 19e et même début du 20e. Avant ça, les habitations paysannes et ouvrières s'organisaient autour d'une pièce à tout faire où on travaillait, cuisinait, mangeait, se lavait, recevait les gens de passage, etc.
Finalement, aujourd'hui, on revient de plus en plus à ce genre de salle polyvalente.
Oui, c'est vrai, la salle à manger, elle s'est transformée au fil des siècles. Aujourd'hui, on trouve souvent une cuisine ouverte sur la salle à manger. Les deux pièces sont fusionnées en un seul espace. Elles s'adaptent à l'évolution des modes de vie et puis aussi à la diminution de la taille des logements de nouveau.
Merci Eric. Tu connais la petite tradition de fin d'émission ?
Bien sûr que non.
Bah, j'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui pourquoi dit-on à la bonne franquette pour parler d'un repas sans manière, sans chichi.
Alors l'expression à la bonne franquette, elle viendrait des dialectes qui étaient parlés en Normandie, en Picardie. Le terme franquette se serait construit à partir du mot franc et du suffixe ette. À la franquette, ça voulait dire franchement, sincèrement, sans détour. À la bonne franquette pourrait avoir été inventée par opposition à l'expression à la française. À la française, on l'utilisait au XVIe siècle et ça signifiait avec cérémonie, de façon luxueuse, fastueuse. À la bonne franquette, c'est donc tout l'inverse. Sans cérémonie, en toute simplicité. Et l'adjonction du mot bonne remet une petite touche de convivialité. Tu trouves pas, Ronan ?
Effectivement, Eric. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire.
Merci à toi, Ronan. À très bientôt.